Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Stéphane Topakian.
Bonjour.
Stéphane Topakian, vous êtes le fondateur et vous êtes aussi le directeur du label Timpani, ce petit village gaulois de l'édition phonographique.
Ça grandit.
Qui s'agrandit, tant mieux. Vous avez déjà reçu la dernière fois, c'était en automne 2011, tout à fait, pour parler justement d'une pépite étonnante qui était cette Cassin et Nicolette de Paul Le Flemme. On avait pas mal parlé de Paul Le Flemme et également de votre politique éditoriale, de l'histoire de votre label et de son évolution. C'est la rentrée, donc l'occasion évidemment de parler un petit peu de votre label, les sorties déjà parues ces dernières semaines, et aussi peut-être déjà nous mettre un peu l'eau à la bouche de ce que Timpani va pouvoir offrir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.
Oui, parce que surtout que c'est une rentrée assez chargée pour Timpani. J'avais différé pas mal de choses, mais là, il y a du grain à moudre pour les mois à venir.
Tant mieux. Donc on va pouvoir s'en rendre compte et juger sur pièce avec... et d'ailleurs, on le verra, parce que souvent, quand on parle évidemment de votre label, on a toujours tendance à penser en termes de compositeur de la fin du 19e, du début du 20e. On verra aussi qu'il y a aussi du contemporain. Vous n'avez pas uniquement...
Je vais jusqu'au 21e siècle. Pas seulement le 20e, le 21e siècle.
Alors commençons tout de suite par peut-être un album qui est déjà disponible sur Cobuzz, un album de cet élève de César Franck qui s'appelle Charles Borde.
Charles Borde, qui a été le cofondateur avec Guillemant et Dindy de la Schola Cantorum. Donc c'est quelqu'un qui compte à ce point de vue-là, qui a composé mais pas énormément. Il a été aussi beaucoup professeur, il a fait beaucoup pour les autres. Et voilà, en s'oubliant un peu lui-même, mais il a laissé un corpus de mélodies assez impressionnant, parce que c'est dans la lignée un peu du Parc, tout ça, mais aussi ça va beaucoup plus loin. Il y en a qui anticipent même Poulenc. Donc il est mort jeune, une quarantaine d'années, en 1900, je ne sais plus, c'est 5, quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a des mélodies qui anticipent sur pas mal de choses. Et on a là le disque, on a le choix, c'est fait avec Michel Daudin, qui est le patron de l'association Charles Borde. C'est porté sur les Verlaine. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les mélodies sur des poèmes de Verlaine qu'a écrit Charles Borde.
Donc c'est un album avec François Ornier Duchâble.
Ah voilà, c'est le retour Duchâble. Et alors ce qui est amusant, c'est que Duchâble, pas connu, puisqu'au fond, il accompagne des chanteurs, il joue le jeu, et c'est un peu inattendu, sachant que quand même dans le disque, il y a aussi les quelques œuvres pour piano de Borde qu'on a casé là. Voilà, il a écrit 3-4 œuvres, on les a mises là. Mais sinon, il accompagne donc chanteuses et chanteurs.
Alors vous nous avez sélectionné un extrait de cet album, donc avec, préciser, la soprano qui chante,
Sophie Marin de Gore.
Donc le morceau s'intitule « Le son du corps ».
C'est de Verlaine.
Thank you.
C'était donc du Charles Borde, interprété au piano par François-René Duchâble et Sophie Marin de Gore. Donc pour cet album de mélodies et d'œuvres pour piano, on peut citer également que sur le reste du disque, il y a également Jean-Sébastien Bou, le baryton.
Puisqu'on l'a partagé entre les deux voix, ça dépend des tessitures qui sont indiquées sur la partition, ça dépend aussi des textes, et des textes plus masculins. Voilà, donc...
Alors changement, là, on 360 degrés, puisque comme je le disais en début d'entretien, Timpani, c'est pas uniquement de la musique française de la fin du 19e ou du début du 20e, avec George Lenz, compositeur contemporain. Qui
oui, mais il n'est pas français.
Exactement, il est luxembourgeois.
C'est-à-dire que vous savez que je travaillais beaucoup avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, on a fait quand même 35 à 40 disques, et l'ancien directeur m'a dit un jour, ce serait bien qu'on fasse quelque chose pour un compositeur luxembourgeois assez jeune, qui est George Lenz. George Lenz, il est installé en fait en Australie, mais enfin, il est vraiment...
Oui, d'ailleurs là-bas c'est un peu une institution pour la musique contemporaine, enfin, il est un peu reconnu presque comme un compositeur australien.
Donc on a fait ça, et notamment une pièce, ce qui est pas mal, parce que j'ai sous mon label Madame Tabea Zimmerman, qui est quand même l'une des plus grandes altistes au monde, et c'est vrai qu'elle est absolument incomparable, et voilà, là, elle a accepté de créer, il y a déjà quelques années, ce MON, sa pièce s'appelle MON, pour alto et orchestre, et elle l'avait donc créé il y a, je sais plus, 6-7 ans, et il y a donc 2 ans, on l'a enregistré avec en plus un chef que j'ai découvert qui est merveilleux, c'est Emilio Pomarico, spécialiste de musique contemporaine. Voilà, donc c'est un disque, moi je trouve intéressant, parce que je pense que le travail d'un éditeur, même s'il a un créneau qui est, bon, en effet, la musique française, bon là c'est un peu une écursion Luxembourg, mais je trouve que c'est bien d'accompagner ce qui se passe aujourd'hui.
Ce que je veux dire, c'est un devoir un peu aussi ça.
Oui, il y a quelque part un petit peu, je trouve que bon, on peut toujours, c'est un peu comme éditeur de livres, disait, bon, je fais Balzac, je fais Stendhal, je fais Zola, non, au jour d'aujourd'hui il n'y a plus rien, non, il y a des gens qui créent. Alors là-dedans, il y a des gens, on enregistre, peut-être que dans un siècle on n'en parlera plus, mais il faut faire le devoir qui dit, bah, attendez, proposons au public. Alors, après le futur, l'histoire fera le choix. Mais en attendant, il faut quand même que le public puisse juger sur pièce. Et c'est le cas avec cette pièce, je trouve.
Ah oui, quelqu'un, un producteur qui s'implique énormément, qui est là d'ailleurs pour les enregistrements, contrairement à certains de vos confrères, on taira des noms. Quand vous justement vous retrouvez dans des séances d'enregistrement de musique contemporaine, donc assez éloignée, on va l'entendre, Charles Borde, vous êtes le même ?
Ah oui. Le même d'abord parce que je veille un peu au grain. Qu'est-ce qu'on veut entendre ? Je discute avec le compositeur. Qu'est-ce qu'on veut entendre ? Vous voyez, on va parler tout à l'heure d'un autre disque qui est celui de Dufour. C'est une esthétique différente. Lenz, il y a beaucoup de choses à entendre. Dufour aussi, mais en fait, c'est une musique plus spectrale, une musique qui joue sur un côté un peu moiré, qui est mouvant, où on n'a pas besoin forcément d'entendre. J'ai jamais voulu. Pas entendre des détails, il faut entendre la somme des détails. Donc par exemple, la préhension du point de vue prise de son ne peut pas être la même. Donc c'est important d'être là, de comprendre qu'est-ce que veut le compositeur, qu'est-ce qu'on recherche dans cette musique. Et puis bon, c'est toujours intéressant de côtoyer un créateur.
C'est ce que j'allais vous demander,
Bien sûr, que vous parle de son œuvre, il est là, il est présent. Attendez, on donnerait quoi pour être, si on avait là à notre table, M. Stravinsky ou je ne sais pas qui. Bon, donc voilà, ça c'est intéressant. On rencontre quelqu'un comme Tabea Zimmerman, qui est passionnante. On assiste à des grands moments.
Vous êtes retrouvé parfois à vous prendre le bec avec certains compositeurs par rapport à des appréhensions de son, etc. Ou pas du tout ?
Non. Et en définitive, quand je fais Ali, je suis en effet là. Et je dis toujours, même si je suis très interventionniste, et parfois un peu en kikinant, ou en kikineur, le dernier mot revient toujours à l'autorité, c'est-à-dire le chef d'orchestre, ou le tandem, chef d'orchestre, compositeur, c'est évident. Mais je suis là pour dire, attention, voilà ce qui veut se passer, voilà ce que ça peut donner.
Alors on va écouter cette musique donc du luxembourgeois australien George Lenz. Donc c'est une pièce, on entend qu'un extrait qui est assez long, qui fait une vingtaine de minutes, qui s'appelle Mon, c'est ça. Donc avec l'orchestre philharmonique du Luxembourg dirigé par Emilio Pomarico.
Thank you.
George Lenz donc, avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, dirigé par Emilio Pomarico, et j'ai oublié de la citer en lançant ce morceau, la violoniste Tabea Zimmermann. On reste dans le contemporain, avec un compositeur un petit peu plus âgé, on va dire, c'est Hugues Dufour. Vous enregistrez également encore avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Oui, c'est un disque qu'on a fait au printemps, et alors ce qui est sympathique, c'est que c'est... Ça s'inscrit dans quelque chose, c'est-à-dire que Hugues Dufour, on avait fait un disque il y a 4-5 ans de mémoire, avec là aussi une belle pièce pour alto et orchestre, le Cyprès blanc, avec Gérard Cosset. Et donc c'est une suite, c'est deux autres grandes pages d'orchestre, Lucifer d'après le tableau de Pollock, et puis Voyage par-delà les fleuves et les monts, qui est une peinture chinoise extrêmement célèbre, de Nguyen. Et voilà, alors c'est toujours chez Dufour, il y a souvent un départ comme ça pictural, mais c'est un point de départ, c'est pas du tout, c'est pas descriptif sa musique, c'est une sorte de point de départ et d'évocation. Qu'est-ce qu'il trouve dans ce tableau, du point de vue de la texture, du point de vue de comment c'est articulé à l'intérieur, et au fond comment retrouver ces émotions traduite musicalement. Alors ça donne quelque chose à la fois très complexe où il faut s'immerger, hein. C'est pas des petites pièces, c'est des pages souvent assez roboratives. On a eu quand même un gros orchestre, un des plus gros qu'on ait eu à Luxembourg, et il faut s'immerger, je dirais, dans cette musique et se laisser prendre complètement par la texture musicale.
On va écouter un extrait donc de ce Voyage par-delà les fleuves et les monts que Hugues Dufour a composé en 2010. C'est un extrait donc de Voyage par-delà les fleuves et les monts d'Hugues Dufour. L'Orchestre Philharmonique du Luxembourg était dirigé par Pierre-André Valade. Alors, retour en flashback encore en arrière cette fois-ci. On vient avec ce compositeur de la fin du 19e, du début du 20e, pas énormément connu non plus, à qui vous avez déjà consacré déjà un enregistrement. C'est Maurice Emmanuel.
Ah oui, Maurice Emmanuel. En fait, petit à petit, là, sans le vouloir, je dirais, hein, sans qu'il y ait vraiment une volonté, initiale en tout cas, on s'achemine un peu vers l'intégrale. Alors, c'est un monsieur qui a beaucoup détruit, Maurice Emmanuel.
Il y a 30 seulement, je crois.
Oui, c'est ça, de plus, parce qu'il
a conservé sur les 73.
Il a jeté. Ouais. C'était un type très exigeant. Et il a souffert d'avoir été un grand professeur. Alors, c'était un spécialiste de musique modale. Donc, aussi la musique, l'orchestrique grecque, par exemple, tous les mouvements, enfin, liés, la danse, la musique, etc. Tous les modes, y compris les modes orientaux. C'est pour ça que j'ai choisi un extrait qui est la sonatine sur des modes hindous. Et c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est pas énorme, mais c'est magnifique. C'est toujours très bien fait et c'est toujours très ludique. Cette musique à la fois très sérieuse, on se dit c'est sérieux, et puis la symphonie, les sonates, tout ça. Et en fait, non, il joue, on sent qu'il aime bien quand même jouer avec la matière et un côté ludique dans sa musique. Et on avait fait les mélodies, on a fait l'orchestre, on a fait de la musique de chambre. Et Laurent Vachal, avec qui avait signé pour mon label un très beau disque, Pierre Ney, a accepté ce challenge, parce que c'est quand même un challenge, hein, c'est pas facile à jouer, de jouer les 6 sonatines. Voilà, donc c'est fait, et je précise qu'est venu se greffer sur ce disque un DVD, réalisé sur le sujet de Maurice Emmanuel, et voilà, j'ai accepté, et le DVD vient en bonus. Quand on prend le disque, il vient en bonus, et on a des interviews, y compris M. Dutilleux, on a des extraits de sonatines, mais cette fois filmés, enfin, ainsi de suite. Donc c'est un document vraiment intéressant qui approfondit, je dirais, ce personnage qu'est Maurice Emmanuel.
C'est un contemporain de Debussy, et pourtant son style s'affranchit.
Oui, voilà, c'est un ami de Debussy, voilà. Mais s'affranchit, il est resté vraiment dans le côté modal. Il anticipe aussi beaucoup sur, par exemple, Messiaen, sur les compositeurs qui se sont intéressés à autre chose que la musique vraiment tonale ou au dodécaphonisme. Et il a en effet composé jusqu'au dernier jour, mais il est mort en 38.
Alors écoutons un extrait, donc sonatine numéro 3 sur des modes hindous, interprété par Laurent Vachal. Thank you. C'était la sonatine numéro 3, donc, interprétée par Laurent Vachal, de Maurice Emmanuel. Donc un album qui sortira fin octobre. On reste à peu près dans la même tranche, oui. Avec un compositeur, Henri Rabaud, qui fut prix de Rome en 1894, qui a succédé ensuite à Fauré à la direction du conservatoire. Parlez-nous un peu de ce personnage, Henri
alors,
Rabaud.
Bon, il est mort. C'est vrai qu'il est de la même génération, mais il est décédé juste
49,
après
la guerre.
Il est connu, très connu, pour son opéra Marouf, qui va être remonté à l'opéra comique, et puis pour sa Procession nocturne, que, curieusement, j'avais déjà édité en disque, mais dans un enregistrement historique. Et là, c'est un jeune chef français, c'est pas si courant que ça, qui me dit, voilà, j'ai un projet Rabaud. Je dis, oui, bon... Procession nocturne, les Glock, c'est aussi connu. Bon. Et puis, ben, la symphonie numéro 2. Voilà, il avait composé cette symphonie. Et en fait, il a composé cette symphonie, c'est un envoi de Rome. Hein. Il était pris de Rome, il était à la Villa Médicis, il a fait cette symphonie, qui est plus dans la mouvance, pas du tout comme Maurice Emmanuel, c'est plus dans la mouvance 500, je dirais. Hein. Voilà, très classique, comme ça. Bon. Et pour me convaincre, il a quand même du toupet, ce garçon. Il a saisi entièrement la symphonie sur clavier MIDI, mais avec les timbres et tout. Ouais, mais voilà la symphonie numéro 2. Ah ! Et alors, c'est quand même étonnant. Et j'ai écouté, c'est vrai que cette symphonie est passionnante. Elle a un côté, entre guillemets, un peu académique, mais en même temps, pleine d'inventions. Là aussi, c'est un côté quand même ludique, plein de grandeur, il y a des aspirations. Ils étaient jeunes compositeurs, mais il y a beaucoup de choses dedans. Alors j'ai dit banco, et comme il avait un accord avec l'Orchestre Philharmonique de Sofia, qui heureusement est là, parce que sinon, si on attendait après l'Orchestre Français pour jouer sur les Rabaud dans 20 ans, on y est encore. Et donc, on est allé à Sofia, enregistrer avec ce très bel orchestre, sous ce programme, notamment cette symphonie numéro 2, jamais enregistrée auparavant.
C'est ce que j'allais vous demander aussi, justement, c'est un bon exemple, jamais enregistré auparavant. Là, c'est aussi votre casquette d'avoir aussi une sorte de mission, de devoir peut-être enregistrer une œuvre.
Oui, il faut faire très attention, avec quand même le risque, toujours, de faire attention de ne pas sombrer dans le... les côtés font le tiroir. Je crois que c'est très intéressant d'exhumer des œuvres, mais il faut à chaque fois se dire, bon, qu'est-ce que ça vaut musicalement ? On peut faire sinon un travail d'archive, de recherche, d'archivage pour l'étudiant qui veut étudier, mais un disque, vous savez, comme moi, le marché du disque est très difficile. Donc on ne peut pas s'amuser comme ça à sortir n'importe où. Il faut quand même que ça corresponde à une volonté, à une politique éditoriale, à quelque chose. Bon. Et là, c'est le cas. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à découvrir qui peut intéresser tout un public, qui s'intéresse aussi bien à Saint-Saëns qu'à Lalo, à votre compositeur.
Donc ce disque d'Henri Rabaud sortira début novembre. Nous allons donc écouter un extrait de cette symphonie numéro 2, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Sofia, avec à sa tête Nicolas Couthon. Thank you. C'était donc un extrait de la symphonie numéro 2 d'Henri Rabaud, par l'Orchestre Philharmonique de Sofia, dirigé par Nicolas Couton, donc un disque qui sortira, Stéphane Topakian, sur votre label Timpani, début novembre. Vous nous avez amené dans votre besace, toujours encore quelques avant-premières pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, des autographes vocaux. C'est quoi les autographes vocaux?
C'est merveilleux. Alors voilà, en 1930-31, la marque Pathé a fait une série qui a appelé les autographes vocaux. Elle a demandé à des compositeurs, ne demandez pas pourquoi elle a choisi ceux-là. Je pense qu'ils étaient là à Paris à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait plus passer par là, il y avait de la lumière. Elle a demandé à des compositeurs de diriger une œuvre. Ou un fragment, parce que c'était en face 78 tours, donc c'est soit deux faces, soit ça va jusqu'à, je crois, six faces. Et, particularité, en parlant à la fin. Donc une fois qu'ils ont baissé la baguette, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre, etc. Bon. Et depuis longtemps, je rêvais de le faire, parce que j'en connaissais un bout, comme ça. Et Philippe Morin, le grand collectionneur, j'en ai parlé, ça fait 7-8 ans au plus que je lui en parle, mais oui, mais rien ne venait. Et puis il y a Simon, dit, tu sais Stéphane, j'ai la collection complète des autographes vocaux. Je dis, alors on y va. Donc on a, il faut imaginer qu'on a monsieur Dindy, monsieur Vidor, monsieur Georges Huc, qui n'est pas très connu, on a oublié Busser, mais aussi Florent Schmitt, Roussel, et puis Engelbrecht, qui dirigent leurs œuvres et s'adressent après au public. Donc ça a quelque chose d'extraordinaire, parce que, par exemple, on va écouter Repars, mais Dindy, par exemple, Dindy qui dit, vous venez d'entendre le camp de Wallenstein que j'ai composé en 1880. Vous vous rendez compte qu'on est en 2012 et qu'un gars vous parle, vous dit, vous savez, l'œuvre que là, que je viens de diriger, je l'ai composée en 1880. Donc là, le disque, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, c'est un raccourci de l'histoire. C'est quelque chose d'inouï au sens premier du terme. Quoi. Voilà, quelqu'un vous parle, il dirige son œuvre, il vous parle. Voilà. Donc je vous propose d'entendre...
Ce qui sortira donc début novembre,
début
c'est ça?
Début novembre, je vous propose d'entendre Repars, La cloche des morts. Je le cite pourquoi? Parce qu'on pourra comparer, je l'ai réenregistré avec Krivine et l'Orchestre du Luxembourg, je crois que c'est ça, oui, il y a, je ne sais plus, 7-8 ans, n'est-ce pas? Et là, voilà, là c'est Repars qui dirige et qui vous parle ensuite.
Alors écoutons Joseph Guy Repars.
Que vous venez d'entendre, exécuté sous ma direction, a été composé en 1887, alors que j'achevais mes études d'harmonie au conservatoire. Elle figura à cette époque au programme d'un des concerts d'orchestre de la Société nationale de musique, sous le titre « Le convoi du fermier », qu'elle empruntait au poème « Les Bretons » de Briseux, dont quelques vers lui servent d'épigraphe. Publiée une dizaine d'années plus tard, elle adoptait son titre actuel « La cloche des morts ». Dédiée à mon ami Albéric Magnard, mon condisciple dans la classe de Théodore Dubois, elle commente rhapsodiquement un thème populaire de Basse-Bretagne, le chant des trépassés.
Oui, document effectivement étonnant de pouvoir entendre Ropart commenter presque sa, l'origine de son œuvre.
Oui, oui.
Donc vous envisagez, j'imagine, d'éditer d'autres autographes vocaux.
Ah bah là, le disque comporte 8 compositeurs, enfin dirigeant leurs œuvres. Oui.
Donc sortira tout ça début novembre.
Ouais.
Alors des avant-premières encore plus lointaines, donc toujours. Cette fois-ci, on arrive à début de l'année prochaine.
Oui, c'est des choses qu'on a enregistrées les semaines dernières.
Alors vous avez amené du Bizet ?
Oui, alors c'est un très joli projet, l'orchestre d'Avignon avec le chef principal invité, Samuel Jean. Ils ont monté le Docteur Miracle, et le premier opéra que Bizet a composé, il avait 18 ans. Et il y avait un concours organisé par Offenbach qui voulait un peu promouvoir l'opéra et puis les jeunes compositeurs, et c'est Bizet qui l'a emporté sur un livret, une pièce en un acte, une pochasse, assez amusant bien sûr, hein, c'est un peu une farce. Il s'appelle le Docteur Miracle, il y a quatre personnages, un orchestre, un petit symphonique, et ils avaient monté ça au printemps dernier en version un peu scénarisée. Bon. Et puis là, ils ont dit, on veut absolument faire un disque. Donc on s'est retrouvés il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, à Avignon, une très belle salle à côté d'Avignon, au Pontet, exactement. Et l'orchestre, les solistes, et on a enregistré donc cet opéra de Bizet, le Docteur Miracle, voilà, qui paraîtra donc en principe fin janvier.
Et on va en entendre un extrait, l'air de Silvio.
Oui, alors qu'il faut expliquer un petit peu, Silvio est un... En fait, c'est un soldat, mais qui se déguise tout le temps parce qu'il veut conquérir sa belle au nez et à barbe du papa, qui n'est pas du tout d'accord. Donc là, il se fait passer pour un valet de chambre, mais un peu gros, un peu pâteau, un peu pecno. Voilà, donc on va comprendre comment il se dépeint lui-même.
Je cire très bien les souliers, ce qu'on me donne pas cher le prendre. Je fais avec beaucoup de talent cuire les pommes de terre sous la cendre. Quant au bûche, j'en fais serment, nul ne sait mieux que moi les fendres. Mais pour vous rassurer, je dois vous le déclarer, je suis encore plus honnête, oui plus honnête. Je suis encore plus honnête que je ne suis bête. Si je n'étais pas très entêté, j'aurais un charmant caractère. Mais quand on me dit « va de ce côté », je pars tout de suite du côté contraire. Nous ne sommes pas encore au bout de tous les talents dont je dispose. Car non seulement je sais faire tout, mais je sais encore faire bien autre chose. Mais pour vous rassurer, je dois vous le déclarer, je suis encore plus honnête. Oui, plus honnête.
C'était donc un extrait du Docteur Miracle de Bizet, dont cette version, cette air de Silvio, interprétée par l'Orchestre Lyrique d'Avignon Provence, dirigé par Samuel Jean et Jérôme Bi, paraîtra donc en janvier prochain. On reste toujours sur la voix, mais cette fois-ci on passe de l'opéra aux mélodies. On change aussi de compositeur avec Philippe Gobert, qui la voix évidemment, c'était lui qui a pas mal officié à l'opéra de Paris.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est Gobert, j'ai quand même, vous l'avez pas dit, a grandement participé à sa résurrection, non pas pour la flûte ça a été fait depuis très longtemps, tout a été fait, refait, puisque c'était un immense luthiste, mais avec notamment trois grands disques d'orchestre. Et puis en creusant un peu, j'ai découvert, comme tous les compositeurs de cette époque, mais plus que certains, il avait composé 90 mélodies. Alors on s'est dit, mais il va y avoir là-dedans des chefs-d'œuvre. Et c'est le cas. Donc on a fait un choix, qui est d'environ 35 mélodies. Là aussi, on a partagé entre baryton et soprano, en fonction un peu des textes, tout ça, des tessitures. Bon. Et avec Alain Jacon, qui connaît bien Gobert, parce que c'est lui qui a fait la direction artistique des disques d'orchestre à Luxembourg. Donc Gobert, il connaît ça très bien. Et on a enregistré ça, c'était début septembre, et ça paraîtra au début de l'année prochaine, c'est plus c'est janvier ou février.
Quelle valeur vous leur donnez un peu à ces mélodies dans l'ensemble de son
œuvre? C'est toujours, comme toujours avec Gobert, c'est une musique très bien faite, mais je dirais très franche. C'est pas une musique forcément hyper sophistiquée, mais il y a toujours une sorte de droiture dans son acte de composition. Il cerne en plus très bien les poètes. Puis alors, qui plus est, Gobert a choisi comme poète notamment Paul Fort. Et j'avoue que Paul Fort, moi j'aime beaucoup. Alors voilà, ça, il y a plein de choses qui font que cette musique très, très entre guillemets directe, très simple, qui épouse très bien l'atmosphère d'une mélodie, enfin d'un poème. Et on s'aperçoit que ce type, comme beaucoup de gens à cette époque-là, enfin les compositeurs, avaient une science incroyable. On se dit, bah oui, Gobert, c'est un grand chef d'orchestre, la Société des Concerts, le Conservatoire, l'Opéra de Paris. Oui, mais c'est comme Pierre Ney, c'est-à-dire que c'est des gens en même temps qui avaient un métier exceptionnel et quelque chose à dire, discrètement, mais quand même quelque chose à dire. Et là, on le sent très bien dans cette mélodie de Paul Fort, donc là, notre chaumière en Yvelines, où là, on va trouver le baryton, Lionel Peintre.
Donc Lionel Peintre, effectivement, vous l'avez dit, le baryton, Alain Jacon au piano, pour donc cette mélodie de Philippe Gobert, notre chaumière en Yvelines. Notre chaumière en Yvelines de Paul Fort sur une musique de Philippe Gobert, donc pour ce disque, encore un disque Gobert, donc qui sort chez Timpani début 2013. Alors c'est vrai qu'on parle de disque, évidemment, et physique et dématérialisé, puisqu'on est sur Cobuzz. Alors là, on va parler justement des avantages aussi de la dématérialisation et du numérique. Donc, c'est que vous allez nous amener dans votre malle de trésor, un enregistrement qui ne paraîtra que au numérique.
Oui, pour le moment, pour un bout de temps, il faut expliquer pourquoi. Un peu une anecdote. Lorsque nous avons réalisé à Luxembourg le deuxième volume de Debussy, je me suis un peu inquiété à un moment donné parce que j'ai dit au chef d'orchestre, Samuel Krivine, mais attention, on a un minutage quand même un petit peu court. Ah bon, bah, j'ai dit oui, je ne sais plus, on devait tomber entre 45 et 50 minutes, ce serait bien se rajouter une heure. Ah bon. Et un beau jour, on m'a dit, voilà, il fait tout ça. Je dis, mais attendez, là, maintenant, c'est gentil, mais ça dépasse. ça dépasse. Alors, je ne peux pas tout mettre sur un disque. Et faire deux disques de 45 minutes, ça peut quand même difficile. Alors, mais par contre, c'était programmé, on l'a enregistré. Alors, je dis, mais si, après tout, je répondais au vœu de Yves, parce que je me souviens très bien de Yves Riesel, qui, il y a de cela pas mal d'années, me disait « Ah, je rêve de l'éditeur qui viendrait me voir en me disant « Voilà, j'ai des productions uniquement numériques. » Alors, je réponds à son vœu. Voilà donc une production de la suite.
Oui, il faut préciser du Martyr.
Du Martyr Saint-Sébastien, c'est les fragments. Hein, c'est pas l'intégrale, bien sûr, de l'œuvre. C'est les fragments symphoniques du Martyr par Luxembourg et son chef Emmanuel Krivine. Et pour le moment, tant qu'on n'aura pas fait des CD de 90 minutes, pour le moment, il sera disponible qu'en numérique. Bon, un jour, lors d'une compile ou quelque chose comme ça, peut-être qu'on le remettra sur le physique, mais pour le moment, non.
Pour justement, pour vous, le producteur, directeur de label, ce genre d'option est, j'imagine, intéressante.
Moi, je trouve que c'est très intéressant, mais si vous voulez, ce qui serait passionnant, je crois qu'on en avait parlé à cette antenne, j'allais dire, il y a un an, ce qui serait intéressant, c'est de bâtir vraiment des projets, entre guillemets, numériques à la base, et pas simplement se dire, bon, ben voilà, j'ai une bande, Cobuzz me la pense, c'est très bien, ben, bravo, mais je rêve de pouvoir monter, oui, des projets qui seraient vraiment dans l'optique du numérique. Et qui oublierait le physique.
Comment vous percevez cette œuvre de Debussy, cette suite?
Ah, ce qui est embêtant dans le Martyr Saint-Sébastien, c'est qu'il n'a pas retenu toujours les... enfin, voilà, on peut ne pas être forcément d'accord avec le choix des pages qu'il a opéré lui-même par rapport aux fragments. Mais ça demeure quand même quelque chose d'exceptionnel. Et puis M. Krivine, c'est quand même M. Krivine.
Ah, donc écoutez un extrait du Martyr de Saint-Sébastien de Claude Debussy.
Thank you.
Donc un extrait du Martyr de Saint-Sébastien de Claude Debussy, donc insistons, ne sera disponible que au numérique, que chez Cobuz. Merci donc Stéphane Topakian pour toutes ces sorties, ces futures sorties de votre label. Peut-être quelques noms, quelques projets un peu plus lointains,
oui,
vous pouvez dévoiler un petit peu.
Il y a par exemple, l'intégrale des sonates de Repartz, violon, violoncelle, flûte. Il y a du piano de Repartz, il y a du piano de Ducas, il y a du Florent Schmitt. Il y a encore pas mal de choses. Et toujours en musique française et aussi en remontant dans le temps. Par exemple, on va enregistrer à la fin de cette année pour une parution, je pense au printemps, des trios de Napoléon Henri Reber. Donc ça, c'est vraiment le romantisme français du 19e. Un jour, en remontant dans le temps, je vous amènerai un disque de Perrotin ou de Lully. Voilà. Peut-être qu'un jour, je remonterai jusque-là. Bon.
Bon, on vous invitera à ce moment-là. Voilà. Merci Stéphane Topakian.
Merci à vous.
Cobuz.com. Rencontre par Marc Zisman.